Vous écoutez RTL.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières.
Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Hier, face au nombre de réfugiés qui ne cessent de grandir, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, dit qu'il faut être audacieux avec un mécanisme de répartition obligatoire et permanent entre pays européens. Sans limite ?
Absolument pas sans limite. Des chiffres ont été donnés, 120 000, 160 000.
Oui, on sait qu'ils vont être dépassés.
Ça, c'est la position qui peut être celle de l'Allemagne, mais la position de la Commission, c'est la suivante. Nous sommes devant un enjeu vraiment vital, existentiel, je dirais, pour notre civilisation européenne, pour nos valeurs européennes. Il y a des hommes et des femmes qui fuient des régimes terribles, des régimes barbares, et l'Europe est confrontée à l'option de les accueillir ou non. Et nous avons fait le choix, en effet audacieux, de dire que notre devoir humain, parce que européen c'était humaniste, c'est en effet d'organiser cet accueil, sans pour autant négliger les autres dimensions, l'assistance technique, la réponse politique, l'aide au retour, tout ça doit être trouvé, la distinction aussi, selon les motifs d'immigration. Mais s'agissant des demandeurs d'asile et des réfugiés, oui, nous devons les accueillir. Et la seule méthode, c'est en effet, cette méthode que je n'appellerai pas méthode des quotas, mais méthode de répartition équitable. Vous savez, demander à l'Europe d'accueillir 120 000 ou 160 000 réfugiés, il faut avoir les chiffres en tête. En 1979, vous vous souvenez, il y a eu la crise des boat people. La France seule a accueilli 130 000 réfugiés. Et je n'ai pas eu cette sensation à l'époque qu'il y avait des débats de cette nature-là ou un réflexe de crispation. D'ailleurs, ce que je note avec beaucoup de satisfaction, c'est que les Français commencent à comprendre ce drame, à tel point que pour la première fois, les sondages hier ont montré qu'il y avait une disponibilité pour accueillir des migrants au sens de demandeurs d'asile ou de réfugiés.
Tout de même, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à l'absence de limite quand on entend le ministre de l'économie allemand, Sigmar Gabriel, se réjouir que son pays va peut-être accueillir jusqu'à 5 millions de personnes dans les 10 ans qui arrivent. C'est l'Allemagne qui est l'autorité morale de l'Europe aujourd'hui ?
D'abord, je veux dire mon admiration, je passe mes mots personnels, pour l'attitude de Madame Merkel dans cette crise. Et voir l'attitude très humaine aussi de la classe politique allemande, qu'il s'agit des sociodémocrates, mais aussi des chrétiens-démocrates. Rappelons au passage d'ailleurs à ceux qui en douteraient qu'il ne s'agit pas d'accueillir des chrétiens ou des musulmans, qu'il s'agit d'accueillir des êtres humains, sans aucune distinction, je dis bien sans aucune distinction, en fonction de l'origine ou de l'appartenance religieuse. Et donc il y a cette générosité allemande. Mais il y a aussi autre chose qui distingue l'Allemagne de la France, il faut le dire, c'est la situation démographique et économique du pays. L'Allemagne a besoin de main-d'œuvre. L'Allemagne a besoin chaque année de 500 000 personnes. Et le fait de dire que dans les 10 ans, ils vont accueillir 5 millions de personnes, c'est quelque chose qui est indépendant, en quelque sorte, de la crise des réfugiés. Et c'est la raison pour laquelle on doit bien avoir des mécanismes de répartition équitable, parce que, encore une fois, selon les pays, la situation n'est pas la même. Madame Merkel, je le disais tout à l'heure, non pas pour la critiquer, mais elle souhaite un mécanisme qui n'est pas de plafond. Je comprends très bien que dans d'autres pays, dont la France, on souhaite
les chiffres effectifs. En France, quand Nicolas Sarkozy propose un statut spécifique de réfugié de guerre qui aurait vocation à rentrer chez eux une fois la paix revenue, et quand il dit « attention, il y a un risque de désintégration de la société », il a tort ?
Écoutez, moi, je ne veux pas du tout entrer dans ces débats qui sont débats français. Je suis aujourd'hui commissaire européen.
Mais
je le dis, la réponse doit être européenne. La réponse ne doit pas être une réponse de fermeture des frontières, une réponse xénophobe, une réponse nationaliste. Et les accords de Schengen, par exemple, qui sont aujourd'hui dans le débat, Jean-Claude Juncker a dit hier, qui ne seraient pas remis en cause. Ils peuvent toujours être adaptés pendant le mandat de cette commission. Ça fait partie des libertés fondamentales. Et la France, pays des droits de l'homme, elle doit s'enorgueillir d'être capable d'accueillir des réfugiés. Moi, je suis le fils d'un homme qui a eu, pendant plusieurs années, le statut de réfugié quand il est venu de Roumanie. Partenez, quelle ironie, la Hongrie, c'était en 1947. Et la France, c'est aussi ça. Alors, moi, je pense que, par rapport à ça, il n'y a pas besoin d'inventer les statuts. Les gens qui viennent sur notre territoire, ils n'ont pas forcément vocation à y rester pour toujours. Mais il faut quand même un peu plus de flexibilité que ça. Et j'avoue, je le disais une seconde, avoir plus, peut-être, d'admiration pour ce que dit Madame Merkel.
Jean-Claude Juncker a une drôle de formule hier. Jean-Claude Juncker a une drôle de formule hier. Il a comparé la zone euro à un poulailler où chacun court en fonction de ses intérêts. Alors comment on fait pour que les poules, c'est-à-dire les différents États, en réalité les différentes nations, se rangent ?
Écoutez, on a la crise des migrants. Et encore une fois, là, nous avons un devoir, je dirais, humain. Et je le rappelle,
mais sur l'euro,
la crise de la zone euro avec la Grèce cet été, et on sera conduit à faire dans les semaines qui viennent l'inventaire de ce qui n'a pas marché. Je dirais que nous n'avons pas assez d'Europe aujourd'hui, que nous n'avons pas assez d'union dans l'Europe et pas assez d'Europe dans l'union.
Alors, comment
manque fait au sein de la zone euro.
Il faut changer ce qu'on appelle la gouvernance de la zone euro. Il faut que les mécanismes marchent mieux. Et donc il faut que les choses soient identifiées. Il faut un gouvernement de la zone euro. Il faut un ministre de l'économie et des finances de la zone euro qui doit être, selon moi, c'est pas un plaidoyer pour deux mots, je le pensais déjà quand j'étais ministre des Finances de la France.
Et qui dira aux différents États, voilà ce que vous devez faire.
Non, mais qui doit être capable de présider l'Eurogroupe et de dessiner les grandes lignes d'une politique économique qui seront ensuite décidées par le Conseil, c'est-à-dire par la réunion des États. Il faut un budget de la zone euro pour être capable, par exemple, d'avoir des mécanismes minimums d'assurance chômage ou pour encourager l'investissement.
Financé par un impôt supplémentaire ?
Alors après, non, absolument pas, mais il y a déjà un budget de l'Europe. Il faut être capable de dessiner, par exemple à travers une taxe sur les transactions financières, des ressources qui soient des ressources vraiment propres à l'Union européenne. Ça, je ne m'engage pas sur ce plan-là, parce qu'il faudra avoir la réflexion sur justement ce qu'est cette ressource propre affectée. Et puis, il faut un trésor de la zone euro, une sorte de fonds monétaire européen de la zone euro pour faire face aux crises. Je pense que si on se dote de tout ça, et c'est ce qu'on appelle la réforme de l'Union économique et monétaire, qui aura lieu dans les années qui viennent, on aura une vision beaucoup plus démocratique, beaucoup plus efficace. Et j'ajoute une dernière chose.
Démocratique, mais Jean-Claude Juncker a dit pas de Parlement.
Il n'a pas tout à fait dit ça. Moi, je reste dans l'idée, on va avoir ce débat, qu'un Parlement de la zone euro est nécessaire. Mais le Parlement de la zone euro, ce n'est pas un nouveau Parlement européen. Ça peut être une organisation à l'intérieur du Parlement européen. Et les parlementaires européens, je crois, ils sont prêts. Nous avons besoin d'une zone euro beaucoup plus efficace, beaucoup mieux identifiée, beaucoup mieux pilotée, avec une gouvernance beaucoup plus démocratique, avec un contrôle des citoyens, une transparence. Les discussions qu'on prend à l'Eurogroupe aujourd'hui, par exemple sur la Grèce, se déroulent dans un forum qui est un forum fermé. Mais moi, je suis prêt à m'engager dans ce débat-là avec la même idée, discipline, car il en faut, en toute matière, mais aussi solidarité.
Dernière question, avec une réponse brève, s'il vous plaît. Il y a un contexte de croissance faible. La France baisse ses impôts, dégage de l'argent pour les agriculteurs et les réfugiés. Vous redoutez qu'elle ne tienne pas ses engagements budgétaires ?
J'attends l'avant-projet de budget de la France pour le 15 octobre. Ensuite, j'aurai à prendre mes responsabilités comme commissaire, le rejeter ou non. J'ai un bon dialogue avec les autorités françaises. La France doit poursuivre la réduction des déficits. Je pense que c'est tout à fait jouable. Elle doit aussi faire les efforts structurels et les réformes qui sont nécessaires. Et donc, il faut aussi maîtriser la dépense publique. Mais je peux vous assurer que le président de la République et le gouvernement sont conscients et que ce dialogue avec la Commission se passe bien. En même temps, la Commission sera exigeante et c'est naturel.
Merci, Pierre Moscovici.
La position de la Commission n'est pas forcément celle des Allemands, d'où des quotas nécessaires, vient de nous dire Pierre Moscovici, qui rend par ailleurs un hommage appuyé ce matin sur RTL à Angela Merkel.